De cause à effet, le magazine de l'environnement.
La PAC, trois lettres, un budget de 386 milliards d'euros, dont 62,4 pour la France, et beaucoup d'enjeux derrière ce logo. La politique agricole commune est en pleine renégociation. Révisée tous les 7 ans, elle est au cœur de nombreux débats, de discussions, de pressions, d'espoir aussi, en vue de cette nouvelle programmation qui engagera l'avenir de l'agriculture européenne pour la période 2021-2027. Quelle vision se dégagera de ces débats ? Comment le monde agricole et les citoyens souhaitent dessiner cet avenir commun ? Quelle agriculture voulons-nous pour demain en connexion avec les enjeux environnementaux ? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons avec nos invités sur ce secteur agricole auquel les Français sont attachés et dans un milieu et un monde en pleine ébullition. Avec nous, Hilaria Casillo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de la CNDP, la Commission nationale du débat public, et donc présidente du débat public sur l'agriculture, un débat intitulé Impactons. Avec nous, Maxime de Rostolan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militant écologiste, ingénieur de formation, créateur du réseau Ferme d'Avenir, du mouvement citoyen La Bascule et puis également de la plateforme de financement Bluebees. Et votre dernier livre s'intitule En avant, l'optimisme pour Cap, un livre paru aux éditions Michel Lafon. Et avec nous, en liaison téléphonique, Arnaud Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et agriculteurs en Seine-et-Marne. Et dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste Mathilde Gérard qui nous parlera de la faim dans le monde et des enjeux alimentaires à l'échelle de la planète suite au prix Nobel décerné au programme alimentaire mondial. Bienvenue dans notre émission, le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset et Vanessa Chang. Émission toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Jean-Michel Bernou.
Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui vivent de la terre, qui vivent de la nature, qui vivent des animaux, ce sont les premiers qui sont particulièrement conscient des dérèglements climatiques, particulièrement conscient du bien-être animal, particulièrement conscient de la nécessité d'accompagner ces transitions. Et alors ça, comment ça se fait? Ça se fait par un accompagnement, c'est-à-dire aider à financer de nouveaux matériels. On a une chance fondamentale, c'est que l'alimentation française, c'est l'une des meilleures au monde, si ce n'est la meilleure au monde. Et comment on fait pour faire cette alimentation française? C'est grâce à l'agriculture française. Et pour s'assurer qu'on ait de l'agriculture française, vous savez, il n'y a rien de mieux que les circuits courts, ce qu'on appelle les marchés locaux. C'est ça qu'il faut développer, il n'y en a pas encore suffisamment. Et donc, dans le plan de relance français, on va mettre le paquet sur ces circuits courts, parce que c'est l'une des façons de valoriser cette agriculture française, et donc d'avoir de l'alimentation française, et donc de prendre soin de la santé de nos concitoyens.
Monsieur le ministre, c'est essentiel.
C'était les propos de Monsieur le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. C'était sur Europe 1 le 21 juillet 2020. Et oui, résilience, relocalisation, circuits courts, sécurité sanitaire, et puis les liens aussi avec l'environnement. Tout ceci est au cœur du débat qui occupe la CNDP, Hilaria Casillo. Il y a une nouveauté quand même dans cette PAC renégociée pour la première fois. Donc la Commission européenne a demandé à chaque État membre de présenter un plan stratégique national pour préciser l'architecture de ce programme de subvention sur son territoire, d'où la saisine de la CNDP par le ministre de l'Agriculture. Rappelez-nous le principe justement de la CNDP et de ce débat impactant.
Oui, en effet, c'est la première fois qu'en France, un débat public dédié à l'agriculture et à la politique agricole est tenu, et cela justement est dû au fait que la France doit déposer à la Commission européenne le plan stratégique national qui doit faire l'objet d'une vaste consultation avec les citoyens et bien évidemment aussi avec tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. C'est une toute première fois donc en France, même si le hasard fait que pour la CNDP c'est pile le 100e débat, parce que la Commission nationale de débat public est une institution qui existe depuis plus de 25 ans, donc c'est pile son 100e débat. Et donc c'est un débat qui est très important à la lumière des enjeux qui sont posés par l'agriculture. et aussi par la conjoncture un peu actuelle, marquée par une attention à la qualité de la nourriture, aux impacts des pratiques d'élevage, de manière très large, aux impacts de l'agriculture sur l'environnement. Et c'est un débat qui sert à garantir le droit à l'information et à la participation des citoyens. On pourrait être porté à penser que sur un sujet très complexe comme la PAC, c'est très difficile d'aller vers les citoyens et leur expliquer. Or, il s'agit tout d'abord, encore une fois, d'un droit. La PAC mobilise de l'argent public, donc l'argent des contribuables. Les citoyens ont le droit d'être informés, de s'exprimer sur ce sujet qui est très important, qui encore une fois a un impact considérable sur l'environnement. Et bien évidemment, c'est aussi un débat qui doit se faire avec les agriculteurs et pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs sont un acteur incontournable de ces débats. L'objectif, c'est de mettre en dialogue les agriculteurs, les acteurs de la chaîne agroalimentaire avec la société. Parce que ces espaces de dialogue ont manqué. Jusque-là, les concertations sur la PAC, sur la politique agricole, se faisaient vraiment entre parties prenantes avec les ministères ou les services de l'État concernés. Il est très important de comprendre que cette première fois est une occasion, une opportunité pour créer aussi des espaces pour mieux se comprendre les uns et les autres.
Donc 5 thèmes sont en discussion, ou ont été en discussion en tout cas avec ces citoyens, notamment avec des experts qui sont venus aussi expliquer. Hein. Quel modèle agricole pour la société française? C'est un premier point. Quelle transition écologique pour l'agriculture? Qu'est-ce que je mange? Comment cohabiter dans les campagnes? Qui décide de la politique agricole? Et donc effectivement, comme vous disiez, cette mise en relation de ces univers. Arnaud Rousseau, je me tourne vers vous. Cette mise en contact de la société civile qui est consommatrice des produits qui émanent de l'agriculture française, cette mise en contact avec les agriculteurs et vice-versa, ça semble être du bon sens.
C'est du bon sens, c'est du bon sens parce que les agriculteurs, encore une fois, vivent dans un environnement de consommateurs avec leurs voisins et donc ils sont évidemment très attachés à la fois à la manière dont on regarde leur activité, dont on consomme leurs produits, dont on s'inquiète, on s'interroge sur leur manière de faire. Donc oui, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ce premier rapport, Ilaria Casillo, d'étape, est disponible sur votre site. Donc la CNDP a été saisie par le ministère de l'Agriculture pour mettre en contact justement ses citoyens et puis discuter aussi, envisager de l'avenir de la politique agricole commune. Le rapport final sera livré en fin d'année, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le rapport final sera rendu fin décembre, sachant qu'un rapport d'étape a été produit parce que suite à la crise sanitaire, nous avons dû basculer en partie du débat en ligne et le suspendre pour une période, donc ce qui a donné quand même un compte-rendu d'étape avec quand même 127 propositions issues de la plateforme. Et ensuite, nous sommes repartis pour le Tour de France. Donc, depuis la reprise, nous avons un débat sur le terrain dans chaque région de France. Au départ, ça devait être plus, mais encore une fois, les contraintes liées à la crise sanitaire nous obligent à réduire le nombre des réunions. Et donc, on sera une fois dans chaque région de France à aborder des sujets divers et variés. La question du revenu agricole, de la transition agroécologique, de l'accès à la terre, des pratiques d'élevage, etc. Donc pas mal de sujets seront abordés sur le terrain, au plus près des agriculteurs, avec tous les acteurs, encore une fois, de la chaîne agroalimentaire et avec le grand public, bien évidemment.
Je vous propose tout de suite d'écouter ce reportage. Il a été diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 25 février 2020, parce que la France est le premier bénéficiaire des aides agricoles européennes, mais il y a ce malaise quand même dans le monde agricole.
16h, seconde traite du jour pour Laurent. Sur pied depuis 5h du matin, l'éleveur débute là sa deuxième journée de travail. Le cœur serré.
C'est du dégoût, on est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que tout le monde prend sa marge et nous, on est les derniers. Quoi. Ils nous mettent juste quoi, qu'on vivote, qu'on a la tête juste sur le niveau de l'eau. Là. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui coulent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se suicident.
Chaque litre de ce lait sera vendu 33 centimes d'euros. Pas de surprise, le prix est le même depuis 1980.
Le plus dur, c'est de travailler beaucoup et de ne pas gagner beaucoup d'argent. On est autour de 3 euros de l'heure, après la valorisation du travail. Donc ça, c'est dur. Secondo, c'est la vision des gens au jour d'aujourd'hui. Ils pensent que voilà, comme on a des subventions qui arrivent européennes, donc on est pris pour des assistés.
Difficile à encaisser lorsqu'on enchaîne des semaines de 75 heures. Depuis 10 ans maintenant, Laurent tente de remonter la pente, difficilement.
C'est un assassinat par l'État, puisque d'un côté on nous demande des contraintes à imposer en France et tout ça, et de l'autre côté on va nous rentrer des produits de l'extérieur. Sans filtre, quoi. C'est de l'assassinat. C'est programmé, quoi.
Référence au Mercosur et au CETA, le coup de grâce de l'État pour beaucoup d'éleveurs.
On vit toujours aussi mal, de plus en plus mal. Combien de temps ça va durer? Jusqu'à où? Va-t-on arrêter? Va-t-on se suicider? Compliqué, l'agricole. Parce que bon, voilà, on est au milieu, là. C'est un métier de passion. Demain, j'ai plus mes vaches. Je ne veux pas en parler, mais bon, c'est compliqué, quoi. Enfin, je ne sais pas quoi faire.
Maxime de Rostelan, ces témoignages, vous les connaissez. Vous avez monté Ferme d'Avenir avec cet espoir de donner aussi d'autres visions, d'autres avenirs et d'autres solutions. Aujourd'hui, ce malaise, il est là.
Ah, clairement, l'agriculteur est celui qui prend tous les risques et qui paye de sa sueur et de sa faible rémunération tout le système, finalement. Et comme le dit cet éleveur, c'est toute la filière et c'est notamment le modèle, le système agro-industriel et avec le capitalisme tel qu'on le connaît, et donc avec les distributeurs, les transformateurs qui mettent la pression. Et ni les agriculteurs ni les consommateurs ne souhaitent ça. D'ailleurs, il y a des marques qui disent c'est qui le patron et qui sont en train de redéfinir un rapport aux filières. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réinventer. Et on s'en souvient, au début du confinement, le président de la République a dit il faut vraiment travailler sur la résilience alimentaire. Donc ça, c'est une première chose qu'il a dit. Et il a dit autre chose. Il a dit il y a des métiers qui sont essentiels. Si c'est pas l'agriculture, je vois pas les cas. Enfin, on parlait évidemment des hôpitaux, etc., en cette période de crise, mais clairement, on est sûr de rien sur l'avenir. Il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il faudra manger, toujours. Et donc, du coup, clairement, les agriculteurs, aujourd'hui, portent vraiment toute la difficulté et le paradoxe de ce monde. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire.
Arnaud Rousseau, la PAC, aujourd'hui, est en renégociation. On va repartir pour 7 ans. Quel reproche, peut-être, peut-on faire à la PAC d'aujourd'hui?
Alors, il y a deux sujets qui ne vont pas dans la PAC d'aujourd'hui. Il y a un premier qui s'adresse plutôt à ce que sont les consommateurs et les gens qui s'intéressent à la PAC, et notamment à travers le débat public. C'est la lisibilité de la PAC. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, de peu lisible pour les gens qui ne sont pas initiés et qui finalement n'atteint pas toujours le but qui est d'expliquer mieux pourquoi on soutient l'agriculture. Le deuxième sujet qui ne nous va pas, c'est le fait que cette politique est de moins en moins commune et de plus en plus le fruit de la subsidiarité, c'est-à-dire la capacité qu'a chaque État membre de mener ses propres politiques. Et en fait, elle a parfois tendance à créer de la concurrence entre États membres. Et ça, c'est quelque chose qui nous gêne beaucoup parce que finalement, sur tout un tas de sujets, on crée plutôt de la concurrence alors qu'on devrait créer des synergies pour produire encore une fois une alimentation de qualité et expliquer pourquoi, sur ce bout de la terre, en Europe, on a finalement une agriculture de qualité.
Mais alors, un des premiers reproches aussi qui émane du terrain, qui émane de ce monde des agriculteurs, c'est aussi la fameuse aide à l'hectare, ce qui pousse quand même à l'agrandissement et donc à ce modèle de l'agriculture intensive qui aujourd'hui, selon les spécialistes, les scientifiques, les chercheurs, n'est pas du tout cohérent avec les enjeux environnementaux.
Alors c'est vrai, cette aide à l'hectare fait débat. Elle a d'ailleurs évolué, hein, puisque lors de la dernière réforme, on a vu arriver, alors c'est un peu technique, mais une forme de redistribution d'une partie du premier pilier, puisque vous le savez, la PAC a deux piliers. Le premier qui est du paiement direct aux agriculteurs, et puis le deuxième qui accompagne le développement rural. Et dans ce premier pilier, la dernière fois, il y a eu un paiement redistributif, une forme de redistribution qui n'était pas le fruit simplement de la surface, mais qui est une forme de redistribution. Et puis, on a aujourd'hui une discussion sur ce que sera le verdissement dans cette PAC, l'éco-schéma. Et là aussi, on pourrait avoir un certain nombre de choses qui s'articulent en dehors de la surface hectare, et notamment peut-être des programmes opérationnels. Donc c'est finalement une logique de projet plutôt qu'une logique de guichet, et ça c'est un élément intéressant.
Hilaria Casillo, qu'est-ce qui émane de la CDP justement?
Alors le débat sur le terrain effectivement abordait ces sujets-là, abordait tout d'abord le sujet qui était évoqué tout à l'heure de la relève agricole, hein, des 6-10 ans de 100 000 et quelques agriculteurs en moins, comment on organise cette relève, avec quelle formation. C'est un débat qui a fait l'objet d'échanges par exemple à Bourges où 44 propositions ont émergé pour relever ce défi, et bien évidemment le débat autour de l'aide à l'hectare ou l'aide à l'actif est aussi un élément qui a structuré très fortement les échanges sur le terrain avec des positions très différentes, hein, quant au maintien ou pas de l'aide à l'État ou comment, si et comment basculer en aide à l'actif. Donc ce sont des sujets qui, on le voit très bien sur le terrain, reviennent régulièrement parce que justement dans le PSN qui se prépare, la troisième partie de ce plan stratégique national, ça pour les auditeurs, la première partie est dédiée à un peu établir un diagnostic de l'état de santé de l'agriculture, la deuxième établit une stratégie, la troisième dit à la lumière de l'état de santé de l'agriculture et de la stratégie.
Ce qu'il faudra
voilà comment
faire.
On va dispatcher les aides. Voilà. Donc là, vraiment, une occasion s'ouvre pour dire voilà comment distribuer dorénavant les aides, bien évidemment toujours dans le cadre de règles imposées par la Commission européenne. Mais on voit très bien venir tous ces sujets comme la place du bio, la question de la souveraineté alimentaire, de l'indépendance alimentaire, la question de l'approvisionnement en protéines végétales à destination animale et humaine aussi, qui n'est pas seulement un volet de plan de relance, mais qui a aussi sa place à l'intérieur des aides de la PAC, plutôt sur le volet rotation des cultures etc. Mm-hmm. Donc on voit vraiment ces sujets qui reviennent régulièrement, donc, et pas seulement chez les agriculteurs, chez d'autres acteurs de la chaîne agroalimentaire et aussi auprès du grand public, des citoyens.
Maxime de Rosselan, une remarque ?
Je suis évidemment les travaux des citoyens sur ce sujet, mais pour avoir participé aux états généraux de l'alimentation, il y avait eu à cette époque une concertation qui avait été organisée pendant des semaines et évidemment on s'y était intéressé de près, on avait fait des propositions. Et donc dans l'atelier auquel j'ai participé, dès la première réunion, toutes les conclusions de cette concertation avaient été balayées d'un revers de main, mais d'une manière incroyable. En une seconde, c'était 4 semaines ou 5 semaines de consultation qui avaient été dites. De toute manière, non, parce qu'en fait, ce qui a été dit, c'est de toute manière, ce sont des militants écolos, etc., qui n'y connaissent rien à l'agriculture, donc cette concertation n'a aucune valeur. Et donc, s'il vous plaît, on passe au sujet suivant. Et je rêve, moi, de voir, dans un autre cadre, avec la Convention citoyenne pour le climat, qui avait quand même des garanties, on voit que malgré ces garanties, on n'arrive pas à dérouler, en fait, ce fil-là. Et on va tous être vigilants et intéressés à voir ce qui se passe après, quoi.
Arnaud Rousseau, et pourtant, j'imagine que vous-même, en tant qu'agriculteur, vous devez regarder ce qui se passe du côté des attentes de cette société aussi citoyenne, de ces citoyens de cette société civile, qui montrent d'ailleurs, depuis quelques années, l'envie d'avoir une autre alimentation plus saine, circuit court. Hein, le ministre de l'Agriculture en parlait cet été, on l'entendait au début de l'émission. On voit bien que la demande, par exemple, ne serait-ce que sur les produits bio, hein, est en augmentation de 15 à 20% par an ces dernières années. Et la France ne répond pas à la demande, d'ailleurs. Donc là, ça veut dire qu'il y a un véritable, peut-être, marché à occuper pour les agriculteurs français. Quel est votre sentiment par rapport à ça ?
Peut-être deux points là aussi. Le premier, pour revenir aux états généraux de l'alimentation, qui avait évidemment créé un vrai élan d'espoir, et notamment pour les agriculteurs, sur la capacité à voir leur production mieux rémunérée et à éviter que la valeur ajoutée soit captée par l'aval et notamment par la grande distribution. Et force est de constater que presque 3 ans après, on est loin de l'objectif et que notamment... l'article 44 qui prévoyait que l'importation de pays qui ne respectent ni nos cadres ni nos règles de production en Europe ne puisse pas rentrer n'est pas appliquée. Donc ça, c'est une forme de regret. Après, sur les nouvelles consommations et les nouveaux marchés, bah vous voyez, en tous les cas, pour un agriculteur, c'est une opportunité puisque ce sont des marchés en croissance et c'est des marchés sur lesquels, pour le moment, on a encore de la valeur ajoutée puisque c'est ça aussi qui est important pour nous. C'est pas de produire du minerai, c'est de produire quelque chose dont on est fier et dont on est capable de valoriser le bien fondé auprès des consommateurs. Ma crainte, cependant, c'est de voir que peut-être sur un certain nombre de produits, et notamment le bio, il y a une captation de valeur, et c'est ce qu'on observe de plus en plus, notamment dans la grande distribution, qui distribue de plus en plus de produits bio en captant une partie de la valeur. Donc oui, évidemment, répondre encore une fois aux attentes des consommateurs, mais pour nous, c'est être particulièrement vigilant sur la capacité de l'agriculteur à conserver le fruit de son travail. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être 70 ou 80 heures par semaine. Ça nécessite quand même un moment qu'il soit respecté et notamment dans la manière dont il peut gagner un tout petit peu sa vie avec la qualité de ses produits.
En sachant, Arnaud Rousseau, que ce qu'on trouve sur les étals des grandes surfaces dont vous parlez en France vient très peu de France, mais plus justement d'autres pays européens. Et c'est là où il y a effectivement, comme vous le disiez, certainement une part de marché possible pour ces agriculteurs. Avant de continuer sur justement l'avenir de l'agriculture, il faut quand même aussi bien faire sentir au-delà du mal-être, mais en tout cas la situation de ce monde agricole français qui, en dehors des grandes exploitations, souffre bien évidemment. Je vous propose d'écouter ce témoignage diffusé sur France 3 le 25 février 2020.
Ce matin, il fait froid. Dans la salle de traite, tout est gelé. La chaleur des vaches n'y change rien. Il faut pourtant faire les mêmes gestes qu'avant, avant ce 15 décembre où Jean-Pierre a décidé de partir. Alors André traite les vaches en courbant le dos. C'est lui qui a retrouvé son frère.
Il nous a laissé un petit mot, les vaches m'ont tué. Et quand le désespoir est supérieur à l'espoir, je n'en peux plus de souffrir. Les vaches m'ont tué. Depuis 2 ans, il faut savoir qu'en règle générale, une tonne coûte 350 à produire, 350 euros. Jean-Pierre et André étaient rémunérés 250, quoi. Donc ils ont d'abord épuisé toute la trésorerie. Tout ça, ça a miné Jean-Pierre, parce que là-dedans, il y avait une histoire d'héritage familial. L'argent de maman, l'argent de tonton qui est décédé, qui n'avait pas d'enfant, de tata qui est décédé, qui n'avait pas d'enfant. Tout ça a été dilapidé, il n'a pas supporté. La politique a voulu qu'ils aient des grosses structures, tout en sachant qu'ils ne peuvent pas financièrement embaucher un salarié. Et ça, je trouve ça, mais immonde, quoi. Immonde. Comment peut-on entraîner une course à l'investissement dans d'énormes structures, mais tout en sachant que physiquement, c'est ingérable, quoi. J'ai découvert que depuis début janvier, ils avaient le droit à des aides. Ils avaient le droit de revoir et de réétaler les prêts avec des prises en charge par BPI, etc., etc. Et c'est pas normal, quoi, qu'il faut vraiment... Pourquoi on ne leur informe pas? Pourquoi on ne leur donne pas les informations? Je trouve que c'est pas normal, c'est pas normal.
En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Dans l'indifférence générale, Marie espère briser le silence.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Arnaud Rousseau, je me tourne vers vous avant de solliciter le regard de nos deux autres invités. Il faut aussi ajouter à ce reportage qu'un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. C'est l'état des lieux quand même du monde agricole. L'endettement aussi, les délais souvent trop longs avant de toucher les aides. Comment est-ce que la PAC de demain pourrait éviter ces situations?
La PAC peut beaucoup, la PAC ne peut pas tout. D'abord, on connaît les drames, malheureusement il y en a trop. Et évidemment, il faut tout faire pour éviter ce genre de situation. Après, je crois que la PAC, c'est une politique publique qui accompagne, vous l'avez dit, les sujets autour de l'agriculture, l'alimentation en premier, mais pas uniquement. Et donc, il ne faut pas tout attendre de la PAC. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles, notamment, les États généraux de l'alimentation étaient un moment central. Et il y en a d'autres. Quand on parle du changement climatique, quand on parle des sujets de biodiversité, on voit bien qu'il y a de multiples sujets et que la PAC est un outil important. D'ailleurs, je le dis parce que beaucoup de gens considèrent que c'est des subventions. Je veux rappeler ici que toutes les agricultures du monde subventionnent leurs agriculteurs. C'est vrai en Inde, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Russie, c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai dans tous les grands pays producteurs. Et donc la France n'échappe pas à cette règle. Et c'est pour ça aussi que le marché ne peut pas tout et qu'une forme de régulation est nécessaire. Et ça fait écho à ce que on vient d'entendre, notamment sur le lait. Donc la PAC, elle doit accompagner en orientant. Et pour nous, elle doit orienter d'abord sur l'aspect économique. Parce que pour demain, pouvoir répondre à la fois au sujet de transition, à la fois au sujet de performance, qu'elle soit environnementale, de réponse à la société, il faut d'abord que l'agriculteur récupère quelques moyens pour pouvoir reconstruire des projets, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir finalement essayer de sortir des problématiques dans lesquelles il est, sachant qu'encore une fois, on aura aussi besoin d'un accompagnement normatif, d'un accompagnement de protection, et je pense notamment à ce qui arrive en France hors de contrôle, et dans des qualités qui sont piètres. Donc voilà, ce sera un ensemble de mesures, mais évidemment, la PAC est un levier majeur, et donc il faut qu'on ait une approche très concrète. Pour nous, c'est un premier pilier fort pour du soutien aux agriculteurs, et puis un deuxième pilier qui accompagne les projets, l'investissement, la transition, la valeur ajoutée, la structuration des filières. Vous voyez, ça fait beaucoup de sujets dans une politique. En tous les cas, il y a beaucoup de moyens, donc il faut les utiliser à cette fin.
Après, toute la question, c'est effectivement à la fois, la question posée par cette sœur qui témoignait du décès de son frère et des conditions, qui disait « on n'est pas informé ». Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on voit bien qu'il y a aussi d'autres attentes sur le fléchage des aides. Et d'ailleurs, il faut préciser que c'était dans le New York Times, en 2018, une demi-douzaine de journalistes avaient fait une étude sur justement les aides et avaient montré que seuls 70% des aides de la PAC allaient aux agriculteurs, puisque 30% vont à de grands groupes, soit pour des campagnes de marketing ou autres, et que peut-être qu'il y aurait là une possibilité de récupérer un peu d'argent de soutien pour ces agriculteurs. Hilaria Casillo.
Déjà, le désespoir, les difficultés des agriculteurs, nous les avons aussi mesurées dans la préparation de ce débat public et pendant le débat public. Nous avons rencontré 169 parties prenantes en 2 mois pour préparer ce débat. Et à chaque fois qu'on va sur le terrain, nous faisons des visites d'exploitation, au moins 3-4 visites d'exploitation sur une journée. Donc on voit, on entend très bien régulièrement les récits, les témoignages, aussi les propositions, le désespoir ou les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les agricultrices sur le terrain. Et la question de revenus, c'est pas un hasard en fait qu'elle revient souvent. Par ailleurs, nous aurons jeudi prochain le 22 à Tarbes, une réunion qui est dédiée aux revenus agricoles et notamment aux facteurs qui impactent le revenu. Parce que vous avez bien évidemment la question de la chaîne de valeur, de la constitution de prix, mais il y a d'autres facteurs qui ont un impact sur les revenus agricoles, la compétence à gérer une entreprise, des agriculteurs, donc la question de la formation. Est-ce que dans les formations, il y a un montant horaire qui est adapté pour leur permettre de bien gérer l'entreprise agricole, l'exploitation qu'ils ont? C'est des vraies questions. Et là encore, on a déjà eu des propositions en ce sens. Il est intéressant de remarquer comment, pendant toutes nos réunions, même si le sujet n'était pas forcément en premier lieu le revenu agricole, on a eu pas mal de propositions qui portaient autour du fait d'accompagner, vraiment qui pointaient la nécessité de mieux accompagner les agriculteurs dans leur parcours d'installation,
aider, former comme, voilà, et informer
en continu. Donc vraiment la question de l'accompagnement, la question de la formation, oui, sont vraiment des questions cruciales. d'autant plus à la lumière de cette fameuse relève agricole qui doit se préparer d'ici 10 ans.
Et on vous parle régulièrement de ces aides à l'hectare. On sent que c'est aussi le nœud des discussions.
C'est un vrai sujet, oui, qui revient très régulièrement, ça, comme la question des modèles agricoles. On a aussi vu venir des points déjà de convergence parmi des points de vue très différents. Par exemple, deux notamment, celui de la nécessité de préserver la diversité du modèle français par rapport à d'autres modèles, donc un modèle qui est fait par des exploitations très différentes, voilà, des différentes tailles. Donc, de plusieurs voies est venue cette nécessité de garder cette richesse de la diversité. Et le deuxième élément, entre guillemets, qui faisait plus consensus, c'était la nécessité, ce qu'on pourrait appeler une territorialisation, non pas tellement de question de point de vue de la gestion des aides, mais plutôt du fait de se retourner vers le local. Hein. Cette exigence de la proximité, de se retourner vers l'agriculteur, vers les circuits de proximité, ça est revenu vraiment de plusieurs points de vue qui, sur d'autres sujets, n'en portent pas les mêmes positions, mais sur ces deux sujets-là, on a vu vraiment une convergence, que ce soit sur la plateforme ou sur les débats de terrain.
Ce qui pourrait permettre une meilleure rémunération, on imagine, des agriculteurs, dans la mesure où ils ne dépendent plus d'intermédiaires et d'intermédiaires d'intermédiaires et pourraient mieux en vivre, peut-être, Maxime de Rostolan. L'agroécologie, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est la solution ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on veut consommer local et pousser le local, il faut aussi pousser l'agroécologie en même temps, parce que si c'est pour balancer plein de pesticides à côté de chez nous, mais les consommer, c'est pas l'idée. Je reviens quand même sur une chose, c'est dire l'économie en premier. C'est ce que vous avez dit, monsieur Rousseau, et ça fait des années, en fait, que c'est le leitmotiv, quoi. Et ça fait des années qu'en fait, on met des rustines, c'est une fuite en avant, et on voit aujourd'hui les limites humaine, ça veut dire qu'en gros, le modèle agricole dominant et soi-disant moderne a détruit 80% des emplois sur les 40 dernières années dans l'agriculture. C'est quand même problématique, donc ça ne fait pas ça. Et à côté de ça, on connaît tous les impacts sur l'environnement avec les insectes, les oiseaux, les problèmes de santé, la qualité de l'eau, etc. Et d'après moi, ce que un militant écologiste et ce que beaucoup des Français désireraient aujourd'hui, c'est qu'on arrive à changer de paradigme, qu'on arrive à changer de lunettes et qu'on se dise ce qui n'est pas négociable, c'est la biodiversité, c'est la qualité de l'eau, c'est la santé de nos enfants. Ce qui est négociable, et on le voit en cette période de manière magistrale, ça faisait des mois qu'on disait « il y a des problèmes dans l'hôpital, non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». Et là, on sort 140 milliards en claquant des doigts pratiquement. Alors bien sûr, est-ce que c'est de l'argent magique, est-ce qu'il faudra rembourser, j'en sais rien. Ça, mais en tout cas, c'est possible. Ça veut dire que c'est négociable. La partie économique est négociable. C'est à nous, être intelligents, d'imaginer comment est-ce qu'on colle un modèle économique qui va sur la protection de l'environnement, parce que ça, c'est pas négociable, et que si jamais il y a plus du tout d'insectes, si jamais on est tous malades, de toute manière, les problèmes économiques, on s'en fichera. Donc, et juste pour terminer sur la PAC, on a l'Europe qui, d'un côté, dit qu'il faut un Green Deal, très bien, et à côté, on veut une PAC qui n'est pas compatible avec ce Green Deal. Donc, il faut absolument faire coller ces deux ambitions, et je pense que c'est un bon moyen pour l'intelligence humaine d'arriver à se surpasser en cette période un petit peu morose.
Et de ne pas aboutir à une déception comme à l'issue des États généraux. Arnaud Rousseau, un exploitant sur trois n'est pas remplacé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette agriculture qui ne fonctionne plus, en tout cas qui ne remplit plus son rôle et qui rend potentiellement ou visiblement malheureux aussi des exploitants. Et vous les connaissez, vous le disiez, vous êtes à leur contact. Est-ce que l'agroécologie est la solution ? Comment vous vous positionnez, vous, à la FNSEA ?
Écoutez, d'abord, l'agroécologie, encore une fois, c'est un outil, hein, et c'est pas une baguette magique. S'il y avait une solution magique, elle aurait évidemment été employée. Peut-être revenir d'un mot sur l'économie, parce que, encore une fois, dans la capacité qu'on a à accompagner la transition et à pouvoir répondre aux sujets qui ont été soulevés, la biodiversité, le changement climatique que les agriculteurs subissent de plein fouet, il faut quand même qu'on soit conscient que tout ça nécessite des moyens. Et d'ailleurs, le plan de relance tel qu'il a été conçu va accompagner cette mutation, que ce soit sur l'accompagnement de la production de protéines, que ce soit sur l'accompagnement de l'achat de matériel ad hoc pour pouvoir accompagner cette transition. Donc on a besoin de cette approche économique et peut-être pour vos auditeurs, et essayer de reprendre un petit peu de hauteur, il faut quand même qu'on soit conscient que si il y a des choses à changer et des transitions à accompagner, l'agriculture française est reconnue comme étant une des plus durables au monde. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit se reposer sur ses lauriers, mais il faut aussi qu'on soit conscient que tout n'est pas à jeter dans la manière dont est produit l'agriculture française. D'abord, quand on regarde à la fois dont les gens sont formés, et il faudra continuer à les former, et ça a été dit, à la fois dans la manière dont on a aussi de traiter les sujets avec une structure administrative, avec des moyens d'accompagnement qui sont quand même nettement supérieurs que dans bien d'autres pays. Et puis, vous l'avez dit, sociologiquement, près d'un tiers des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 5 à 7 ans. Et donc, je dirais mécaniquement, des places à prendre. Et l'installation aujourd'hui, c'est 10 à 12 000 installations tous les ans. Et donc, ça ne sera pas en capacité de pouvoir finalement boucher ce trou. Et donc, ça pose aussi la question de l'attractivité de nos métiers. Et pour attirer dans nos métiers, il faut aussi en parler de manière positive, de manière attractive, de manière favorable. Et Dieu sait si c'est un métier difficile et pour autant passionnant, et ça a été dit par un des auditeurs, c'est un métier passionnant qu'on ne choisit pas par hasard. Donc l'enjeu pour nous, c'est l'attractivité du métier pour continuer à attirer des gens qui ont envie d'exercer ce métier, en attirer en plus grand nombre, si c'est possible. Mais pour autant, encore une fois, le départ de près de 30% des agriculteurs en retraite dans les 5 ans sera un sujet important qu'on aura collectivement à traiter.
Maxime de Rostelan.
Effectivement, sur l'attractivité, il y a un gros chantier hein, pour nous, pour trouver 200 000 personnes qui ont envie de devenir agriculteurs. Pour mémoire, 50% des gens qui s'installent aujourd'hui veulent le faire sur des bases agroécologiques. Donc, clairement, si l'objectif qu'on doit avoir commun, c'est de redorer le blason un petit peu de l'agriculture, l'agroécologie est sans doute le meilleur atout, la meilleure carte à jouer. Par ailleurs, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur le modèle agricole français, oui, bien sûr, on a un modèle agricole que d'aucuns trouvent fabuleux, etc. Mais le modèle agricole, et je me souviens, dans les états généraux de l'alimentation, on voulait mettre la polyculture élevage comme le modèle de référence à la plus petite échelle, à savoir même au niveau de la ferme. Et on s'était fait répondre, mais non, mais il n'y a pas de problème, en France, on fait de la polyculture élevage. Regardez, on fait bien de l'élevage en Bretagne et des céréales en Beauce. Donc du coup, on fait de la polyculture élevage. Et en fait, là, il y a un vrai sujet et ça boucle avec la dimension économique qui est importante, évidemment. Je dis pas qu'il faut pas la prendre en considération. Je dis juste que ça doit pas être la seule boussole et surtout pas le premier indicateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un modèle qui est très linéaire comme ça et qui n'est pas circulaire, quoi, dépend du pétrole. Et la question que je pose à tous les ministres de l'agriculture que je croise depuis à peu près 10 ans, c'est que devient la ferme France le jour où le baril passe à $200? Et en fait, on sait plus se nourrir parce qu'on a une agriculture qui dépend du pétrole. Et il faut absolument, je pense, repenser ça. Et pour info, hein, 3/4 de l'empreinte carbone d'une ferme, c'est dans l'épandeur. C'est bien dans les produits phytosanitaires qu'on épand. C'est pas dans le réservoir de diesel. Donc du coup, moi, dans les présentations que je fais, à chaque fois, on montre les limites et je les fais deviner, en fait, les limites du modèle agricole, industriel, chimique, etc. On le fait deviner et on dit maintenant, quel est notre meilleur atout pour résoudre ces problèmes? Mais en fait, c'est l'agroécologie. C'est donc l'agriculture. L'agriculture a la solution. Mais il faut à un moment acter que c'est notre objectif, c'est régénérer la biodiversité, produire de l'eau potable de qualité et pas polluer l'eau comme c'est le cas aujourd'hui.
Agroécologie, agroforesterie, on continue dans un instant.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine, summer wine.
C'était Summer Wine de Alex Capranos et Clara Luciani. C'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture qui s'intéresse ce soir à la future PAC, la politique agricole commune, en pleine renégociation et dont la nouvelle programmation engagera l'avenir de l'agriculture européenne pour la période 2021-2027. Avec nous, toujours, Hilaria Casillo, vice-présidente de la CNDP et présidente du débat public sur l'agriculture intitulé Impactons. Arnaud Rousseau, en liaison téléphonique avec nous, vice-président de la FNSE, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et agriculteurs lui-même. Et puis Maxime de Rostolan, militant écologiste, ingénieur de formation, créateur, je le rappelle, du réseau Ferme d'Avenir, du mouvement citoyen La Bascule et également de la plateforme de financement Bluebees. Et votre dernier livre, Maxime de Rostolan, s'intitule « En avant l'optimisme pour Cap », un livre paru aux éditions Michel Lafon. Et tout de suite, eh bien, je vous propose de prendre la direction sans plus attendre de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenariat média dans l'actualité qui touche à l'environnement. Coup de projecteur, comme d'habitude, sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonsoir Mathilde Gérard.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes notre œil du monde Planète et vous avez souhaité revenir sur la question de la faim dans le monde et des enjeux alimentaires. Alors suite au prix Nobel de la paix décerné au programme alimentaire mondial, un prix, c'est vrai, important. Hein.
Oui, alors c'est à un prix qui braque à nouveau les projecteurs sur la question de la faim dans le monde, qui est un problème qui est loin d'être réglé et qui s'aggrave ces dernières années, alors qu'on avait enregistré plusieurs décennies de progrès. Depuis 2015 environ, la faim est repartie à la hausse dans le monde, notamment du fait de conflits armés ou des aléas climatiques. Et on compte aujourd'hui près de 700 millions de personnes qui sont sous-alimentées, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi manger suffisamment chaque jour, soit près d'une personne sur 10 sur notre planète. Et si on élargit à la malnutrition dans ses différentes formes, c'est-à-dire les carences alimentaires, l'anémie, mais aussi le surpoids ou l'obésité, cela touche 2 milliards de personnes, c'est plus d'un quart de la population. Donc c'est un vrai défi pour nos sociétés parce que c'est à la fois inacceptable que des personnes n'aient pas de quoi se nourrir en 2020 et cela entraîne aussi des problèmes de développement parce que quand des enfants sont carencés, ils ne peuvent pas bien apprendre à l'école et en fait c'est leur avenir qui est compromis. Donc cette problématique de l'insécurité alimentaire, en plus elle a été aggravée ces derniers mois par la crise du Covid qui a fait basculer dans la faim des dizaines de millions de personnes en plus. Or, il y a quelques années, la communauté internationale s'était fixé un objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030. C'est un objectif qui semble, pour l'instant, assez difficile à atteindre.
Mais alors, Mathilde Gérard, ce Nobel intervient aussi dans un contexte d'une lutte contre la faim qui est sous-financée.
Oui, effectivement, on voit déjà que rien que pour les financements d'urgence, ça pêche. Au printemps, au mois de mars, l'ONU avait lancé un appel d'urgence dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pour pallier les effets très directs des mesures de restriction. Or, quand on regarde les comptes aujourd'hui, fin septembre, seulement 10% des fonds qui étaient requis sur le plan de la sécurité alimentaire ont été financés. Donc on a un écart très très important de ce point de vue. De la même façon, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a dû renoncer ces derniers mois à certaines de ses interventions, notamment au Yémen, faute de financement. Donc on voit que la communauté internationale a du mal à s'engager. Or là, on parle vraiment de l'aide humanitaire d'urgence, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg pour laquelle les besoins sont les plus visibles et les plus immédiats.
Et alors du côté des financements de long terme, qu'en est-il ?
C'est compliqué parce qu'effectivement, si on veut éradiquer durablement la faim, une dizaine d'années, il ne faut pas se contenter de distribuer des denrées alimentaires d'urgence, même si ce travail reste indispensable. Il faut s'attaquer à des changements structurels. Et ce qui est intéressant, c'est que un groupe de chercheurs a travaillé pendant plusieurs années pour identifier quelles étaient les actions les plus efficaces pour éradiquer la faim de façon durable. Ils ont publié leurs résultats il y a quelques jours, le 12 octobre, dans la revue Nature et dans plusieurs rapports de la FAO notamment et d'autres institutions. Alors, ils ont repéré plusieurs actions clés, notamment en termes d'amélioration des capacités de stockage de la nourriture, parce qu'en fait, on sait qu'une grande partie de la production agricole est perdue, y compris sur les fermes. Il y a aussi des enjeux autour de l'amélioration de la formation, notamment des femmes paysannes, dont les rendements sont inférieurs à ceux des hommes et qui ont vraiment besoin d'être soutenus pour apprendre à diversifier les cultures, par exemple. Donc ça, ce sont des mesures qui peuvent venir soutenir durablement l'agriculture dans le monde, mais ce sont des mesures à long terme et ça nécessite d'investir. Et effectivement, les chercheurs ont calculé qu'il faudrait doubler l'aide que donne la communauté internationale. Alors, ils parlent d'augmenter de 14 milliards de dollars par an, ce qui finalement n'est pas si énorme que ça. Mais il faut agir vite parce que plus on attend, plus on court le risque de sacrifier une nouvelle génération. Et là, alors c'est les mots du programme alimentaire qui le soulignait lorsqu'il a reçu son prix Nobel, mais la nourriture, c'est le meilleur vaccin contre le chaos. Mais c'est vrai que la lutte contre la faim devrait remonter en tête des priorités au niveau mondial.
Merci Mathilde Gérard, je signale pour nos auditeurs que toutes les informations sur ce sujet et les articles sont à retrouver, les articles de Mathilde Gérard sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Plateau du Larzac, territoire de Saint-Maurice-de-Navacelles dans l'Hérault. Nicolas Braic a créé son exploitation ici en 2007. Son premier travail, ouvrir les milieux afin de permettre à ses cochons de se nourrir. Ils vivent toute l'année en liberté.
Les cochons sont capables de valoriser une herbe qui ne poussait pas parce que c'était trop embroussaillé. Et à chaque fois qu'ils vont arriver sous un buis ou à côté d'un caillou, ils vont pouvoir soit valoriser un insecte, une petite racine, une baie, un gland. Et donc le système forestier génère beaucoup de ressources avec des animaux en excellente santé. Ici, on a beaucoup d'érables de Montpellier, qui sont des arbres très sucrés, et les cochons en raffolent. C'est comme des bâtons de réglisse. C'est plein de sucre et plein de jus. Donc ça se faisait beaucoup au niveau des anciens et l'érable s'y prête bien parce que ça ne le fait pas trop souffrir.
Enfin, comme une cerise sur un gâteau, c'est l'arbre de coléoptère, le cétoine doré. Elles se nourrissent de copeaux de bois morts. Nicolas favorise leur reproduction.
On est vraiment sur quelque chose qui, on va dire, est un concentré de nourriture dans le minimum d'espace. Donc on a 33% de glucides, 17% de lipides et pas loin de 50% de protéines.
Et c'est bien simple, les cochons en raffolent. Une démarche d'agroforesterie globale et innovante qui vaut à Nicolas Brahic l'Ordre National du Mérite en novembre 2018 pour son engagement dans le développement durable.
C'est un reportage qui a été diffusé sur France 3 le 15 mai 2019. Je vous ai vu réagir, Maxime de Rosselan, parce que hasard quand même de nos choix aussi en matière d'illustration sonore. Et je salue le travail d'Anaï Morales au passage. Vous connaissez en fait cet homme-là?
Ouais, Nicolas, ça fait longtemps. Dès le départ, il s'est lancé en 2007. Et moi, en 2012, quand j'ai lancé Bluebees, il m'a dit « Écoute, j'ai du mal à trouver des financements sur cette technique d'avenir qui coche toutes les bonnes cases. » quoi. Et donc, on avait financé l'amorce de son projet. J'avais pas suivi, en fait. Je savais pas qu'il avait l'Ordre du Mérite. C'est formidable.
Ah oui, une belle énergie. Arnaud Rousseau, je me tourne vers vous. On sent, par ce témoignage-là, que, voilà, il y a aussi cette possibilité de diversification d'avenir, probablement pour l'agriculture française, avec l'agroécologie, l'agroforesterie, mais la difficulté aussi de trouver des financements et d'être soutenu. Quelles sont peut-être les préconisations de la FNSEA à ce niveau-là et aux côtés de ceux qui en ont besoin?
Alors d'abord, moi je me réjouis qu'il y ait des types de projets de cette nature et plus il y en aura, plus finalement on sera en capacité de proposer des produits attendus par les consommateurs. Ça pose deux questions. La question du financement, vous l'avez dit, alors il y aura le financement classique de la PAC, ça peut être aussi des financements dans le cadre du deuxième pilier et notamment le deuxième pilier de la PAC et notamment pour accompagner l'investissement ou pour prendre des mesures spécifiques ayant trait au climat, les mesures agro-environnementales et climatiques. Ça pose plus largement la question aussi du pouvoir d'achat des consommateurs. On a vu pendant le confinement, finalement, les Français faire massivement le choix de la consommation locale. Et c'est une bonne chose. Et ça a permis aussi de montrer tout le savoir-faire et l'étendue du savoir-faire des agriculteurs français. On fait malheureusement le constat que depuis la fin du confinement, le retour à des modes de consommation dans les supermarchés a repris ses habitudes. Et on entend évidemment avec les problématiques actuelles et la crise montante, le sujet du pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on arrive aussi à proposer la qualité à des prix abordables pour les consommateurs. Et nous, on considère à la FNSEA que plus vert, c'est plus cher. Et que, quelque part, le savoir-faire de l'agriculteur, il doit pouvoir être rémunéré aussi à sa juste valeur. Et que si il prend en compte les critères agroécologiques, s'il prend en compte l'ensemble des problématiques environnementales, eh bien, il faut aussi pour le consommateur accepter d'en payer le prix. C'est parfois aussi l'injonction un peu paradoxale, c'est qu'on voudrait de la qualité à proximité, mais on la voudrait pas chère. Et ça, c'est pas toujours conciliable, et il faut aussi que chacun en ait conscience.
Hilaria Casillo, je crois qu'il y a une des propositions, d'ailleurs faite à la CNDP, qui serait de moduler la TVA en fonction des critères écologiques, sociaux et nutritionnels. C'est une bonne idée, ça?
Nous, vous savez, à la Commission, on a un devoir strict de neutralité et d'indépendance. Donc, nous ne prononcerons jamais sur le bien fondé d'une proposition. Nous devons être neutres. Donc, nous n'avons pas un point de vue sur la question. Mais nous réjouissons du fait qu'en revanche, on a de nombreuses propositions. Oui, à ce stade, le débat n'est pas encore terminé. Nous avons déjà plus de 300 propositions sur la table après le ministère. Et ça, c'est une différence par rapport aux états généraux de l'alimentation. Et doit répondre. Donc, c'est une procédure encadrée par le Code de l'environnement, débat public. Donc, il a trois mois pour répondre au compte-rendu que nous allons publier fin décembre et donc répondre aussi sur le fond à toutes les propositions qui vont émerger. Ça, je pense que c'est un principe de reddition des comptes qui est très important, surtout dans le cadre d'un débat de ce type qui essaye de faire rencontrer des points de vue différents ou de mettre en dialogue la société, tous les acteurs divers et variés qui se mobilisent, qui font des choses un peu différentes avec les agriculteurs et les agricultrices. Donc ça me semble quelque chose qui est très intéressant et vraiment une opportunité dont il faut absolument se saisir et qui est la grosse différence avec les OGA qui était un dialogue entre parties prenantes surtout. C'était pas ouvert au grand public, les portes étaient fermées. Or, le propre de ces débats publics sur le terrain, c'est vraiment que n'importe qui peut venir et participer.
Et on sent aussi que dans ces débats-là, le rôle que le monde agricole peut jouer dans l'atténuation du réchauffement climatique et dans cette adaptation de tous est au cœur aussi des débats. Des aides peuvent être envisagées pour les services écosystémiques rendus à la planète.
On a pas mal d'interventions, voilà, de propositions sur ce type-là, de comment on rémunère les services, oui, voilà, rendus à l'environnement, ce qui est déjà un peu le cas, mais comment on renforce un peu cette chose-là. Tout le débat aussi du transfert deuxième pilier, premier pilier, ou ce qu'on mettra concrètement dans l'éco-scheme. C'est vrai. Là encore, hein, on a des nombreuses propositions qui sont issues déjà du débat, ce qui est très intéressant encore une fois.
Maxime de Rostelon.
Moi, le plus vert, c'est plus cher. Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien, moi, connaître l'ensemble des externalités de l'agriculture chimique, que ce soit sur la santé, sur la qualité de l'eau. On parle des algues vertes, on parle des problèmes de santé. Et est-ce que les agriculteurs qui suicident ne sont pas, en fait, finalement, des dommages collatéraux du modèle agro-industriel chimique qui s'impose quand même depuis 40 ans? On a sorti le plaidoyer Ferme d'avenir en 2017, où on a évalué, et donc ça a été un an et demi de travail avec des ingénieurs, on a rencontré plus de 160 personnes, des chercheurs, pour évaluer les externalités et le coût réel de l'agriculture industrielle et chimique. Et il nous semble, en tout cas c'est ce que montre le plaidoyer, il est en ligne disponible sur le site, hein, c'est 150 pages, on a fait une version de 12 pages si vous n'avez pas le temps. Mais globalement, on montre que c'est un choix qui nous coûte très cher. Clairement, en fait, c'est toujours plus cher de réparer des dégâts que d'investir dans une agriculture qui serait plus résiliente et moins vulnérable.
Arnaud Rousseau, pour rappel, en mai 2020, la nouvelle commission présidée par Ursula von der Leyen a annoncé deux stratégies dans le cadre du Green Deal, hein, c'est-à-dire les deux stratégies, c'est celle de la ferme à la table et puis celle favorisée la biodiversité. Et donc, il y a ces demandes, et notamment de réduire l'usage des pesticides, des insecticides, donc des intrants chimiques, de 50% d'ici à 2030. Quelle est votre position par rapport à ça? C'est-à-dire, vous, avec cette renégociation, qu'est-ce que vous demandez concrètement, ne serait-ce que concernant les aides directes versées au titre de la PAC pour les futurs éco-régimes?
La première question, c'est les efforts à fournir. Moi, je considère qu'il en reste à fournir, mais il y en a déjà beaucoup de fournis. Et c'est important aussi, par rapport à l'attractivité du métier, de prendre acte des efforts qui ont été faits, notamment des pesticides, de la réduction importante des pesticides, et notamment des pesticides les plus dangereux, de la réduction drastique de l'utilisation des antibiotiques. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire sans? La réponse, pour le moment, c'est non. En tous les cas, globalement. Est-ce que, par ailleurs, dans l'éco-schéma, on doit être ambitieux? Oui, vous parliez notamment de la fin des énergies fossiles. C'est exactement ce qu'on fait quand on est en capacité de proposer des biocarburants français 100% renouvelables pour répondre immédiatement à la problématique de mobilité d'un certain nombre de flottes captives. Vous pouvez aujourd'hui faire tourner les bus d'une ville avec du colza 100% français, garanti sans OGM, qui par ailleurs va fournir, coproduire de la protéine dont le continent européen a tant besoin, protéine elle-même non OGM. Donc du travail, il y en a déjà de fait, il faut continuer à le faire. Et dans cet éco-schéma tel qu'il va être construit, alors on va attendre de savoir quel est le cas, parce qu'il n'est pas encore complètement connu, et ce qui va se passer la semaine prochaine à Bruxelles peut-être précisera les choses. Ce qui nous paraît important, c'est d'abord de reconnaître ce qui a déjà été fait, et notamment vis-à-vis, je l'ai dit, des autres pays européens, parce que on parle d'un débat franco-français dans lequel nous sommes actuellement, mais la politique agricole est européenne. Et quand vous allez voir aujourd'hui ce qui se fait en termes d'environnement dans des pays pas si lointains en Europe, on constate que la marge de progrès est importante dans ces pays-là et que la France a déjà bien avancé. Donc nous, on veut à minima que les choses soient harmonisées entre États membres. Et c'est la raison pour laquelle on souhaiterait que cet éco-schéma soit obligatoire et pas optionnel, comme un certain nombre d'États le portent aujourd'hui. La France porte le caractère obligatoire et nous, on est favorable à ça. Ensuite, il faut veiller à ce que le maximum d'agriculteurs puissent atteindre l'objectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une politique élitiste, hein, c'est des soutiens importants. Alors, on ne sait pas si ce sera 20 ou 30% que représentera cet éco-schéma. Mais en tous les cas, il faut que les agriculteurs puissent y abonder. Ils ont besoin de cet argent pour accompagner la transition. Ensuite, il faudra que ce soit pas une usine à gaz et facilement contrôlable, parce que parfois l'Europe a ce savoir-faire de complexifier les choses, et les agriculteurs ont maintenant une aversion marquée pour le papier et ce qu'on appelle la simplification, dont on parle souvent et qu'ils ne voient jamais venir. Et donc on aura besoin que tout ça soit finalement, encore une fois, assez lisible pour les consommateurs et pour ceux qui finalement financent la PAC, c'est-à-dire tous les contribuables européens.
Je rebondis sur un article qui est paru dans Le Monde du 12 octobre au sujet de la COPACOGECA, qui donc est l'un des plus anciens lobbies bruxellois et qui tenterait en fait de contrer les velléités de verdissement de la PAC. Et je précise que la COPACOGECA est présidée par Christiane Lambert, qui est à la tête de la FNSEA. C'est vrai que ça a pu étonner aussi beaucoup, puisque, je le précise pour nos auditeurs, selon l'article, une demande en ce sens, donc de freiner les velléités de verdissement de la PAC aurait été faite via une lettre adressée aux eurodéputés demandant que les futurs éco-régimes ne représentent que pas plus de 20% des aides directes versées au titre de la PAC, alors qu'il y a des groupes au Parlement qui demandent un taux entre 30 et 50%. Pourquoi une telle position? Qu'est-ce qui effraie? Enfin, pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que, du coup, on n'en est pas dans le faire plus, là, ou le faire mieux.
Si, je vais vous répondre. D'abord, le Copacogeca n'est pas un lobby. Le Copacogeca, c'est une fédération de syndicats d'agriculteurs européens, dûment déclarée à Bruxelles. Et la position de la FNSEA de 20%, c'est déjà une position ambitieuse, je vous ai dit. C'est la hauteur de la marche et la capacité à atteindre. Et j'ajoute, pour vous montrer que l'ambition est quand même déjà importante, c'est la position de l'Allemagne qui aujourd'hui préside le Conseil. Et donc la ministre allemande de l'Agriculture, Madame Klöckner, porte cette ambition à 20%. Alors vous avez raison, il y a des gens qui veulent plus, c'est pas illégitime, mais je voudrais déjà faire constater que 20%, ça n'est pas rien, et que 20%, appliqué à l'échelle européenne, ça sera déjà pour un grand nombre d'agriculteurs une marche ambitieuse. Alors après, est-ce que ce sera plus? Moi, je ne suis pas négociateur et je ne sais pas ce qui sortira de la négociation. Mais voilà, je veux rappeler que la position de la FNSEA, ni plus ni moins que celle du Conseil, portée aujourd'hui par une présidence allemande. Donc on n'est pas dans quelque chose au rabais, mais je l'ai dit et je le redis, il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit atteignable. On peut se faire plaisir avec des grandes ambitions qu'on n'atteindra jamais. Ce qui nous paraît important aussi, c'est qu'à l'échelle de l'exploitation et de l'ambition, on puisse accompagner la transition, non pas de quelques-uns, mais de la grande masse. C'est à ces conditions-là qu'on sera capable de faire impacter et changer l'impact de l'agriculture sur l'environnement.
Comme vous disiez, accompagner la transition, et c'est ce rôle aussi qu'a la FNSEA à l'image d'autres syndicats, la Confédération Paysanne notamment. D'ailleurs, je précise qu'il y a une tribune dans Libération publiée lundi par donc Libération et la tribune de Nicolas Giraud, une PAC paysanne pour réussir la transition agroécologique, voilà, avec effectivement les ambitions de la Confédération Paysanne. De votre côté, à la FNSEA, quand des agriculteurs se tournent vers vous parce qu'ils veulent justement engager cette transition, de quelle façon est-ce que vous les accompagnez?
On les accompagne essentiellement par l'information, parce que je rappelle que les financements sont soit des financements publics via l'Europe, soit via la France, soit via les régions qui sont aujourd'hui détentrices de la compétence économique et qui ont des moyens conséquents, notamment dans le deuxième pilier, qui est la partie du développement rural. Et donc aujourd'hui, un agriculteur peut se faire accompagner dans un projet, alors de tout type, un projet d'installation. Il y a des mesures spécifiques pour les jeunes agriculteurs. Ça peut être un projet de transition qui soit de nature à construire un bâtiment d'élevage ou un bâtiment de stockage. Enfin voilà, il y a une multitude de mesures et en fonction de la mesure, elle se décline au niveau des régions ou au niveau national, avec une partie de financement européen et une partie de cofinancement sur budget national. Et donc ça peut être, encore une fois, des mesures agro-environnementales et climatiques, ça s'appelle les MAEC, et ça représente aujourd'hui près de 250 millions d'euros de financement européen tous les ans, et on espère que ça continuera. Ça peut être des mesures qui ont trait aussi à des projets plus spécifiques d'investissement. Donc il y a beaucoup de mesures qui existent. Et puis, au-delà de la PAC, il y a parfois aussi des mesures d'accompagnement propres aux régions qui ne se déclinent pas dans le cadre de la politique agricole commune. Mais un certain nombre de régions peuvent faire des choix politiques d'accompagnement. Et je suis, moi, à titre personnel, notamment assez sensible à ce qui se prépare sur le plan protéines. Il y aura un volet dans le plan de relance concernant la protéine, mais il y aura aussi un volet dans la politique agricole commune. Et ces deux volets complémentaires doivent nous permettre d'être plus ambitieux dans la production de protéines françaises, et j'espère demain européenne, pour diminuer notre dépendance, notamment à l'importation de soja sud-américain.
Hilaria Casillo, peut-être justement pour terminer sur ce thème-là, c'est-à-dire les aides possibles, j'ai envie de vous poser aussi la question, est-ce que finalement, au vu de nos échanges et au vu de cette situation avec la transition et puis la question environnementale, est-ce que une co-gestion des deux ministères, agriculture et environnement, ne serait pas l'idéal dans l'avenir? Hilaria Casillo, les aides.
C'est en effet une proposition qui est issue sur la plateforme, je pense. Et non, je pense que le débat sur l'ambition de l'éco-scheme montre à quel point le débat public qui est en cours sur la PAC est important, parce qu'il est censé quand même éclairer la décision publique, renforcer la position de la France. C'est le seul pays qui pourra aller vers la Commission lors des négociations en disant aussi, voilà aussi ce qui demande la société française. Donc la capacité du décideur et du ministère à prendre en compte ces attentes via les propositions qui sont faites est très importante. Donc vraiment, je pense qu'il est important que de lire, d'écouter et de traduire en décision politique les attentes fortes et claires qui sont émergées du débat public de la société, mais aussi de tous les agriculteurs et agricultrices qui ont participé à ce débat. Je pense que cet espace de dialogue et d'échange est d'autant plus important dans un moment, dans une conjoncture comme celle actuelle où on ne comprend pas forcément les mesures adoptées, etc., où on a vraiment besoin, en période aussi très, très tendue, très crispée. Je pense que des espaces d'échange et constructifs de ce type-là, il faut vraiment les préserver et s'en emparer le plus possible.
Maxime de Rostolan, la guerre des ministères a peut-être assez duré face aux enjeux sociétaux et planétaires.
Ce qui est sûr, c'est que pendant les états généraux de l'alimentation, c'était un gros sujet. Hein. Nous, on a un petit peu toutes les organisations écologistes, etc., et de consommateurs d'ailleurs, se sont retrouvés là-bas parce que le ministère de la Transition a poussé, et sinon on n'y aurait peut-être pas été. C'est un sujet compliqué et qui n'est pas très lisible, et vous le disiez, Monsieur Rousseau, en introduction. Moi, je pense que dans une phase où on réinvente, et surtout pour 7 ans, hein, il faut avoir des propositions claires. Je sais que vous ne réduisez pas du tout ça à la rémunération des agriculteurs, mais ça risque de désintéresser les gens là où, et je pense d'ailleurs, c'est une proposition que j'ai faite la première fois à Stéphane Le Foll, lorsqu'il était ministre, j'avais dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça la politique agricole et alimentaire commune, quoi, pour de vrai. Enfin, je veux dire, on est 100% à manger, il y a peut-être effectivement que 2% d'agriculteurs, c'est regrettable d'ailleurs, mais politique agricole et alimentaire commune, et là, tout le monde s'intéresserait, et si jamais on dit, bon, bah voilà, on va diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre, on va mettre 25% de bio d'ici 2027, 10% de la SAU pour la biodive, on va orienter la ferme France pour avoir moins de viande petit à petit, mais de la viande de meilleure qualité. Tout ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, rendrait plus lisible. Et je termine juste sur une chose, c'est que cette notion d'agribashing, bien sûr, on sent qu'il y a un ressentiment à l'égard de l'agriculture, pas des agriculteurs, du modèle agricole, clairement, qui nous a emmenés là où on est avec...
Oui, parce que les Français sont très attachés à leur agriculture et aux agriculteurs. On le voit ne serait-ce que lors des salons de l'agriculture et malheureusement d'ailleurs annulé pour l'année 2021.
C'est clair. Et d'ailleurs, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit « Moi, je suis prêt à venir bénévolement aider des fermes. » Alors évidemment, ils vont aider des fermes bio, hein, ils vont aider des fermes plutôt en agroécologie. Je termine juste sur un truc. Il me semble que on devrait se mettre ensemble, et plutôt que de parler des projets de loi, etc., parler de projets concrets. Et il me semble qu'il y a un enjeu crucial, c'est sur la biodiversité et le dérèglement climatique. Et là, il y a une solution que seuls quasiment les agriculteurs sont susceptibles de pouvoir mettre en place, c'est l'agroforesterie et de planter des arbres. Plantons des arbres ensemble. Si demain, les 470 000 agriculteurs disent « on va planter des arbres », je suis sûr qu'il y aura au moins 470 000 Français pour venir les aider à le faire. Et on verra à ce moment-là que c'est pas un problème d'amour. Il n'y a pas de désamour avec les agriculteurs, on les aime.
Hilaria Casio, une phrase.
Juste un chiffre, plus de 800 000 personnes touchées par ces débats, un nombre très élevé de propositions. Donc oui, c'est un sujet certes compliqué, mais aucun sujet n'est trop compliqué pour être débattu avec les citoyens. Les citoyens ont montré une appétence pour ce sujet.
Donc restons sur l'amour et pas le désamour. Merci à tous les trois. Hilaria Casio, Arnaud Rousseau, Maxime de Rostolan. Maxime de Rostolan, je rappelle le titre de votre dernier livre, En avant, l'optimisme pour Cap, paru aux éditions Michel Lafon. Et puis comme toujours, vous pouvez retrouver les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute, toujours à votre disposition. Mardi prochain, dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent, nous nous intéresserons aux espèces invasives et à leurs conséquences sur nos vies au quotidien et sur la biodiversité. Nous serons avec François Moutou, Franck Courchamp et Emmanuel Sarah. Et vous restez bien sûr à l'écoute de France Culture, c'est la suite de vos programmes dans un instant et puis dans quelques minutes, le journal de la rédaction.